Moi, je croyais vous apporter le soleil ce matin, mais... C'est la première fois que je vois une église conduite par une personne âgée avec autant de dynamisme, de jeunesse et d'énergie. Si c'est comme ça, moi, je vais demander mon transfert à Lille. Bon, je suis très, 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 très heureux, vraiment très heureux de pouvoir passer cette journée avec vous. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'abord de retrouver des amis. Je les retrouve comme je les ai quittés, aussi barrés. Je parle de Georges, là. Moi, je pensais qu'avec l'âge, il se serait assagi. Mais c'est bon. Là, c'est bien. Là, c'est bien. N'en fais pas plus, hein. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Puis félicitations. Alors à ceux qui. Tu sais, je dis toujours à ma femme, tu sais, ma chérie, à côté d'un génie, il y a toujours une femme qui souffre. Je comprends pas. Elle apprécie pas toujours, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Alors, simplement pour préciser, parce que maintenant, aujourd'hui, il faut préciser. Donc, moi, je suis aussi marié, dans 2 ans, ça fera 50 ans. Donc, je suis marié avec une femme, ça, il faut le préciser. Et je suis marié avec la même femme. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair, c'est dit, et puis, voilà. Voilà, et puis, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais simplement, ça fait 40 et quelques années que je sers le Seigneur en tant que quoi ? Je sers le Seigneur. D'ailleurs, moi j'aimerais bien savoir, juste pour information, qui ici est serviteur de Dieu ? Vous pouvez lever la main ? Alors, attendez, merci. Et les autres, alors vous faites quoi ? Si j'ai bien compris, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Moi, il y a une chose qui m'agace profondément, c'est quand on dit... Ah oui, non, mais lui, il est serviteur de Dieu à plein temps. Et alors les autres, vous, c'est quoi ? C'est du mi-temps ? C'est quart-temps ? C'est... Nous sommes tous serviteurs de Dieu à plein temps. On est d'accord avec ça ? Seulement pendant ces dernières années, enfin, je ne suis peut-être pas comme vous, d'ailleurs. Je vais peut-être vivre un très long moment de solitude. J'ai fait des erreurs. Je me suis trompé. J'ai pas toujours eu raison dans ce que j'ai fait. Ça y est, ils vont me mettre à la porte. Là, je vois votre regard en disant « Oulalalala, ben alors, on n'a pas invité un Superman ?» Non. Voilà. Et voyez, j'ai fait, et en tous les cas, je sais que j'ai fait, il y en a au moins deux que je peux partager avec vous. La première, à un moment, j'ai dirigé un institut biblique pour la formation au ministère. Là, ça marque quand même. Et programme, on avait des étudiants qui venaient pour une année, toute une année. On les avait 5 jours par semaine. Études le matin, études l'après-midi. Et puis pour les occuper, je leur donnais des devoirs le soir, enfin très souvent c'était la nuit aussi. Bien entendu, il fallait les occuper aussi pour le week-end. Et bien entendu, les fêtes de Noël, on en profitait quand même pour... Bon. J'ai fait venir pendant ces temps des hommes, des femmes, avec un enseignement profond. Ils venaient soit des États-Unis, d'Angleterre, de l'Inde ou d'ailleurs, des gens que je connaissais, et puis bien entendu, certains venaient d'Europe. Et je crois qu'on avait vraiment un enseignement au top, au top. Puis j'ai fait le point. Au bout d'un an, au bout de deux ans. Et là, j'ai vécu quelque chose de dramatique. C'est que pendant une année, on avait déversé toutes nos connaissances dans la tête de ces gens. Mais dramatiquement, j'étais obligé de reconnaître, au bout d'un an, je n'avais aucun disciple. Et ça a été pour moi un échec. Un échec. J'ai cru avoir bien fait. Aucun homme, aucune femme qui avait vraiment ce cœur de serviteur, de disciple, qui savait beaucoup de choses, mais qui pratiquait tellement peu de choses. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas normal, c'est pas juste. Où est-ce que je me suis trompé? Et là, le Seigneur a commencé à me montrer que on les avait enseignés, mais on ne les avait pas formés. Quelques temps plus tard, je suis allé à Madagascar. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai visité et je visite toujours beaucoup de pays. Et là, un de mes amis m'avait invité pour faire une formation. Il m'a dit, viens, tu pourras faire une formation à nos responsables. Je lui ai dit, oui, pas de problème, je sais faire. Et je suis arrivé là, la fleur au fusil. Je devais enseigner sur la vie de l'esprit. Et j'ai commencé la formation, la première heure. J'ai apporté mon enseignement sur la vie de l'esprit. Au bout de la première heure, il y avait une pause. Et mon ami m'a dit, en me tapant sur l'épaule, « Robert, tu sais qu'on t'aime bien. » Mais on ne t'a pas demandé ça. Je lui ai dit, attends, tu m'as bien dit sur la vie de l'esprit. Oui, mais on t'a dit une formation. Ben, je lui ai dit, ben... Il me dit, non, ça, ce que tu as fait, c'est un enseignement. Ah. Et là, j'ai commencé à... Il m'a expliqué en 10 minutes ce que pouvait être une formation pour que dans les 10 minutes qui suivent, parce que j'avais une semaine devant moi, je fasse de la formation. Et ça a été un sacré défi. Je voudrais partager ces choses ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui brûlent dans mon cœur. Toutes ces dernières années, pour moi, il y a des choses d'abord qui sont prioritaires. La première chose, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et je crois que j'ai dû passer toutes ces dernières années à prêcher sur le royaume de Dieu. Il y a des choses qui brûlent dans mon cœur. Quand j'entends Antoine parler d'une église apostolique, pour moi, ça fait partie de ces choses-là qui sont tellement importantes. C'est ma façon de vivre, c'est ma conception. C'est aujourd'hui, je ne peux pas envisager l'église d'une autre façon. Une église doit être apostolique et prophétique. Et l'apostolique et le prophétique sont dans une même synergie. Mais il y a une chose qui remplit aussi mon cœur. C'est la transmission. Transmettre. Et je crois qu'on a besoin, on a besoin de réfléchir. Tout à l'heure, on a chanté « Seigneur, tu me donnes de l'intelligence. Ouais. Vous avez lu dans les évangiles le nombre de fois où Jésus parle à ses disciples en disant, attendez, vraiment, vous manquez d'intelligence, hein? Bon, c'était les disciples. Nous, c'est quand même pas pareil. Mais on a vraiment besoin d'avoir une intelligence renouvelée chaque jour. Parce que on a peut-être fait pendant des années certaines choses de tout notre cœur. C'était super, c'était formidable, c'était, voilà, il y avait même du fruit. Et puis le Saint-Esprit nous visite, nous parle. Ouais, mais là, tu vois, le fruit, après ces quelques années, c'est pas tout à fait celui qu'on pouvait attendre. On a eu des clichés, on a eu des façons de faire, des modes. Et puis, j'allais dire très honnêtement, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait selon le modèle que j'avais. Et comme j'avais pas de modèle, parce que notre génération est une génération d'orphelins, Antoine. On n'a pas eu... Faut comprendre ça, tu es d'accord? On n'a pas eu de modèle. On n'a pas eu de père spirituel. Hein? Et je crois que il se peut même que notre modèle de fonctionnement d'église a besoin d'être reconsidéré. Parce que tout qu'on fait, c'est quoi très souvent notre vie d'église? Venez dans notre salle. Venez dans notre église. Vous avez un problème? Venez dans notre église. Oh, vous savez, ce week-end prochain, nous avons un visiteur. Il va vous bénir. Et on a comme principe de répondre à toutes les questions que les gens ne se posent pas. Très souvent, je pose cette question à dans les églises. Je dis, mais pour vous, c'est quoi l'église? Alors, bien entendu, tout le monde dit, mais l'église, c'est l'ensemble des croyants. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes, ce matin, vous avez dit à votre femme, on va à l'église? C'est dans notre culture. Dans notre culture, on a la profonde conviction que c'est notre rassemblement. Alors, qu'on se mette bien d'accord. J'aime l'église. J'aime l'église locale. Et je crois que quand on est rassemblé, il y a une bénédiction. Mais mes amis, je voudrais partager avec vous aujourd'hui cette, pour moi, qui est une grande vérité, c'est que la culture du royaume de Dieu n'est pas établie sur le « venez », mais la culture du royaume de Dieu s'est établie sur le « allez ». On a le sentiment parfois que dans bien des endroits, il y a des programmes. Tout se fait ici, dans ce lieu, dans cet endroit. Alors que, non, on se retrouve pour louer Dieu, on se retrouve pour être encouragé, s'exhorter, oui. On se retrouve surtout pour être équipé afin d'aller. Mais nous, on dit aux gens, venez. Et parfois, dans nos églises, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Ben oui, mais si tu allais, il y a beaucoup plus de monde dehors que dedans. C'est pas la peine de vouloir les attendre ici alors qu'ils sont dehors. Et on a besoin, là, d'être formé dans cette vision-là, dans cette perspective-là de l'Église. Moi, je crois complètement à la complémentarité des ministères. Mais les ministères, c'est dans le but d'équiper l'Église pour que l'Église exerce son ministère. Et à cause de cela, on a besoin d'avoir des perspectives nouvelles, une compréhension nouvelle. On a besoin de comprendre que ceux qui sont là, et je parle pour ceux qui peut-être exhorte, prêche, enseigne. Ceux qui sont là, c'est pas simplement le lieu et l'endroit pour les enseigner. Parce que qu'est-ce qui se passe? En général, vous savez, par exemple, ce matin, regardez ce matin. Vous êtes tous très sympathiques, hein. Mais vous savez, moi, je sais. Et vous, vous m'écoutez parce que vous ne savez pas. Le principe de l'enseignement, c'est ça. Parce que si je vous apprends des choses que vous savez, ce n'est pas la peine que je sois... Hein ? Eh bien oui. Donc, vous voyez, on a fabriqué déjà quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Parce qu'il y a le savant, celui qui sait, c'est le savant. Et puis, il y a les ignorants. Non, mais attendez, on est dans ce principe-là. Comprenez, je ne suis pas contre l'enseignement. Je suis simplement en réflexion, on va dire, mais j'ai déjà pas mal réfléchi, sur justement cette position où on vient, on écoute, on dit amen. Qu'est-ce que c'était un bon message? Qu'est-ce que c'était un bon enseignement? Reposez la question. Une semaine après, il avait enseigné sur quoi? C'était bien. Oui, mais encore, c'était super. Et alors, vous repassez. Le problème, c'est que vous repassez 20 ans après. Vous avez les mêmes personnes qui entendent les mêmes messages et qui disent « Qu'est-ce qu'il est bien, Saint-Nosek ?» Moi, vous voyez, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans un système de l'art oratoire. Il y a des gens qui parlent, et des gens qui écoutent. Il y a des gens qui enseignent et il y en a d'autres qui apprennent et qui sont toujours là pour apprendre et ils ont appris une chose, c'est qu'ils étaient là pour apprendre. Et que notre objectif n'est pas celui-là. Mon objectif, c'est pas de rassembler le maximum de personnes pour que ce maximum de personnes puissent m'entendre, même si je dis des choses très intelligentes. J'en doute pas. Toi, tu en doutes un peu, mais j'en doute pas. Vu la façon dont tu me regardais, j'en doute pas. Mais le but, c'est que nous puissions nous former afin d'être équipés et d'exercer les uns et les autres le service auquel nous avons été appelés. Et ça ne peut pas se faire au travers d'un déversoir d'enseignement, un déversoir de connaissances, où on remplit simplement nos connaissances. On n'est pas seulement dans le savoir, reprenez, on en reparlera, mais reprenez tous les textes où Jésus dit, mais soyez pas ces auditeurs oublieux, mettez ma parole en pratique, mettez-la en pratique. Et nous devons être de ceux qui se disent, mais ma vie chrétienne, elle peut pas être. Pardonnez-moi, peut-être est-ce que je suis iconoclaste. Vous savez, on m'a toujours dit, vaut mieux, c'est plus facile d'ailleurs, de demander pardon que de demander l'autorisation. Donc, je vous demande pas l'autorisation. Pardonnez-moi après. Mais je vais être un peu iconoclaste. On parle de vie chrétienne. J'ai besoin, de temps en temps, vous savez. Oui, mais nous revendiquons d'être chrétiens. La seule chose, c'est que même le Seigneur ne nous l'a pas demandé. Moi, Jésus m'a jamais demandé d'être chrétien. Oui, non, mais oui ou non? Donc j'ai dit, je suis plus chrétien. grâce à Dieu, je ne suis pas religieux. Mais même quand je dis ça, j'ai le sentiment, malgré tout, que chasser le religieux, il revient au galop. Vous n'avez pas remarqué, c'est toujours les autres qui sont religieux, tout compte fait. Non ? Je suis persuadé que si je vous dis, vous connaissez des gens religieux, vous me dites, ah oui, oui, alors, l'autre église là-bas, oh là 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 là, là vraiment, alors là, c'est... Non, mais attends, t'inquiète pas, on a tous une petite dose quand même. Donc l'important, c'est peut-être de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce que Dieu me demande ? À quoi Dieu m'appelle ? Et je répète, moi, je ne veux pas être religieux parce que Dieu n'est pas venu pour m'annoncer une religion et il ne m'a même pas demandé d'être chrétien. Parce que c'est quoi cette histoire ? C'est à Antioche ? C'est pour se moquer de leurs pommes ? Ouais, petit Christ, là ! Je ne vois pas pourquoi. Donc, ça n'a pas été voulu par Dieu. Non, non, c'était les gens qui avaient envie de se moquer de ceux qui croyaient en Christ. Alors, bon, il y en a déjà assez qui se moquent de nous, on ne va pas encore en rajouter. Donc, voilà. Non, tout simplement pour se dire, il y a des moments où la religiosité se cache dans des endroits bizarres. J'ai besoin de réfléchir et de remettre en question, ou plutôt de pouvoir discuter sur tout. Je crois que le rassemblement de l'Église, c'est un rassemblement où il ne doit y avoir aucun tabou. On doit pouvoir discuter de tout. Moi, j'ai pas de vache sacrée. Oui, je sais bien, on n'est pas loin de la Normandie, mais enfin... On a besoin peut-être de se remettre en question sur beaucoup de choses, et particulièrement, certainement, sur... cette notion de former des disciples. Ce que je voudrais dire encore, parce que là j'ai l'impression, le temps passe très vite et j'ai l'impression d'être simplement dans mon introduction, c'est vrai que quand je traite ce sujet, en général je le fais sur une semaine. Voyez-vous, je vais peut-être là encore vous étonner, peut-être, mais je crois qu'on a passé trop de temps à vouloir expliquer l'Évangile alors qu'il nous est demandé de le pratiquer. Certains me diront, oui, non, mais attendez, il faut quand même un peu de théologie, oui. Vous connaissez la phrase de Prévert ? La théologie, c'est simple comme Dieu et Dieu font trois. Bon, il y en a qui n'ont pas compris, mais je vous expliquerai après. Comprenez, on se base sur cette parole. Faites de toutes les nations mes disciples, et enseignez-leur. Faites d'abord. Faire comme le potier fait un vase. Formez d'abord, et puis enseignez ensuite. Mais nous, on passe plus de temps à vouloir expliquer, à vouloir enseigner, et comme je le disais tout à l'heure, à vouloir répondre à des questions que les gens ne se posent pas. Faites, formez. C'est quoi un disciple ? C'est quoi un disciple ? C'est celui qui apprend. Oui, après. C'est celui qui est discipliné. Celui qui obéit. Qui suit son maître. Un élève qui sert, qui reçoit l'enseignement, qui m'en pratique. Est-ce que vous acceptez que je puisse vous dire que le disciple, c'est celui qui fait comme Jésus, il fait des disciples. Un disciple, c'est celui qui est comme Jésus, qui fait des disciples. Parce que je sais, je le connais l'enseignement. On peut passer toute notre matinée, c'est quoi un disciple ? Mais c'est pas parce que je vous aurais dit un disciple, c'est celui qui obéit, le disciple, c'est celui qui. Non ! Le disciple, c'est celui qui fait comme Jésus. Alors, maintenant, ma deuxième question. Combien de disciples est-ce que tu formes actuellement ? Ne fais pas vivre des longs moments de solitude comme ça. Vous voyez, très souvent, on s'est limité à dire aux personnes qui nous écoutent, avec qui on partage, amenez les gens à l'Église. Alors ça, je sais que vous avez déjà passé le cap, mais très souvent, on s'est limité à amener des gens peut-être à Christ. Et c'est bien. Mais quand tu as amené quelqu'un à Christ, c'est pas fini. Il faut en faire un disciple. C'est ça la question. Et si je dis que je suis disciple, c'est parce que actuellement je fais des disciples. Mais comment est-ce que je fais un disciple ? Comment est-ce que je fais un disciple ? Est-ce que c'est simplement en lui disant bon, écoute. Assis-toi. Nous allons d'abord aborder la théologie du salut. Ensuite, nous allons faire l'eschatologie. Ensuite, nous allons voir... Mais bien entendu qu'on a besoin de ces choses-là, comprenez ? Comprenez ? On a besoin de ces choses-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre rapport avec la personne à avoir ? Vous savez, c'est quoi être un disciple ? Sinon, être un homme, une femme qui entre dans ses responsabilités ? Un homme et une femme qui, maintenant, a une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il a sa relation personnelle avec Dieu ? C'est quelqu'un qui a une certaine maturité ? Tout compte fait, c'est ce qui s'est passé. Moi, avec mes enfants, avec mon fils, moi, mon désir, c'est que mon fils puisse, quand il était tout jeune, c'était qu'il puisse grandir, se développer, devenir autonome, qu'il puisse être un homme avec des responsabilités, qu'on puisse voir en lui quelqu'un qui soit vraiment spirituel, mais qui marche tout seul, que je lui tienne pas la main encore quand il a 30 ans. D'accord ? Et là, je vais vous confesser quelque chose. J'ai jamais dit à mon fils, bon, fils, aujourd'hui, on va aborder le chapitre premier sur l'eschatologie. On va aborder maintenant, la semaine prochaine, dans nos relations familiales, moi, de père à fils avec toi, on va aborder la Trinité. On sourit, mais je sais que certains font comme ça. Moi, si vous voulez, j'ai marché avec mon fils. Quand je dis marché, c'est-à-dire j'ai voulu vivre avec lui, à côté de lui, parler de lui. Et j'ai essayé d'être pour lui ce modèle. Mais mon but, c'était de le libérer. Mon but, c'était qu'il soit libre. Mon but, c'était qu'il entre dans cette maturité, qu'il entre dans cette vie, sa destinée. Et on a partagé. Et puis en fonction de ce qu'il me disait, je lui répondais. On avait cette relation-là dans l'idée de le construire. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Mais la formation, c'est ça. La formation, c'est de se dire, j'accompagne quelqu'un parce que je voudrais que mon plafond devienne son plancher, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je voudrais qu'il soit rempli de l'esprit, parce que je veux qu'il puisse exercer son service. Je veux qu'il puisse lui-même guérir les malades, chasser les démons. Très souvent, nous demandons à ceux qui nous entourent simplement, soit au pire, d'être des bons auditeurs pendant toute leur vie, au mieux, de devenir des bons témoins qui partagent leur foi. Très souvent, on s'est satisfait de dire « Oui, j'ai amené cette personne à Jésus, mais c'est formidable, c'est formidable !» Mais t'as pas fini ton boulot. T'as pas fini ton boulot. Je m'adresse à ceux qui ont des ministères de gouvernance en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète. Notre boulot, notre job, c'est justement non pas d'enseigner, parce que on le fait tellement, mais c'est surtout d'abord de former. C'est quoi former ? C'est quoi former ? Quelle différence il y a ? Oui, j'ai pas encore mis en route, j'ai ça à la main depuis une heure, ça m'a pas encore servi à grand chose. Mais ça viendra dans la journée, ça viendra. C'est quoi former ? Quelle différence il y a ? En deux mots. Si, prenons l'exemple de cours à l'université. On a là un maître de conférence, on a un professeur, et il est reconnu pour toutes ses qualités. Et on dit, quel enseignant ! Oh, un enseignant, mais alors, top ! Et puis alors, l'enseignement qu'il a apporté, bien préparé, c'était profond, c'était vraiment, il a fait des recherches, on voit le gars, il est intelligent le gars, hein ? Ah vraiment, vraiment ! Et le seul objectif que l'on a, et que celui qui enseigne a, c'est de faire un bon enseignement. Soit dit en passant, ceux qui écoutent, débrouillez-vous. Soit dit en passant, vous n'êtes pas la cible. La cible, c'est que ce soit un bon enseignement et que ce soit un bon enseignant. Quand on fait de la formation, la cible, c'est pas la qualité de l'enseignant ni la qualité de l'enseignement qui est d'abord en premier. La cible première, c'est celui que je veux former. Parce que je veux qu'il grandisse. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit qui a déjà agi en nous, qui nous montre le modèle. Nous avons là le paradigme formidable de la formation. Vous savez, remarquez ce qu'a fait Jésus. Jésus a formé pour envoyer et il a envoyé pour former. Il est le premier qui a inventé l'alternance. Mais quand je dis nous, moi, allez, j'assume. Combien j'ai eu d'exigences en disant non, mais là, le gars, il n'est pas assez top pour l'envoyer. Il n'en sait pas assez. Il est encore trop jeune. Il a 46 ans, mais il est trop jeune encore. Jésus, remarquez bien comment Jésus a fait. Dès le départ, avec ses disciples. Il les envoie. Pourquoi est-ce qu'il les envoie ? Pour les former. Il les forme pour les envoyer. Et là, on a besoin de comprendre que celui que l'on forme, c'est celui que l'on veut voir se développer. On voit les qualités. On discerne sa destinée, son appel, et on va l'aider à développer tout ça. Bien entendu, dans le cas présent, on est le vis-à-vis. Et là, si t'es pas un peu, je dirais, le modèle, ça va être difficile. Parce que lui, il va te voir. Il va pas simplement te voir quand tu enseignes. Vous savez, c'est formidable d'enseigner. Hein. Moi, je sais que quand ma femme est pas là, je peux dire beaucoup de choses. Hein. Mais quand ma femme est là, je fais attention. Parce que là, si jamais j'en dis trop, elle va me dire à la fin, « Dis donc ça, hein, là, t'as exagéré quand même. Hein. » Enseigner. Oui. Mais enfin, moi je dis, vous savez, j'ai fait assez d'homilétique pour dire aujourd'hui, je peux même former une chèvre pour prêcher. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Attendez. Bon, pas une chèvre, d'accord, mais. Un mouton. Non, mais quand on enseigne, vous savez, je suis quand même pas un perdreau de l'année, donc je peux vous dire que on peut soulever des foules, on peut faire des effets de manche, on peut exciter les gens, on peut faire plein de trucs en enseignant. Mais quand vous êtes Allez, pour un vieux, je me débrouille bien. Hein. Viens avec moi. Quand vous vivez avec quelqu'un, viens avec moi, suis-moi, marche avec moi. Oh, t'es pas obligé de me prendre le bras, je peux marcher tout seul. Ça, voilà, tout de suite des idées préconçues. Hein. Il est vieux, on va lui tenir le coude. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça là ? Tu marches avec moi, à côté de moi. On marche ensemble. Parce que vous savez, je voudrais vous dire une chose, c'est que les problèmes, c'est pas. Vous n'avez pas remarqué que dans les églises, c'est pas les problèmes de théologie qui posent problème. C'est les problèmes de caractère, peut-être. Enfin, de caractère, peut-être. C'est parfois. Marcher avec lui, c'est lui qui m'a donné l'autorisation de lui poser toutes les questions, même sur sa vie privée. Ouais. Parce que tu peux être un très bon enseignant, mais si tu fous en l'air ton couple, ça va être quand même difficile. Donc il vaut mieux en parler avant. Ça fait partie de la formation. Et puis, tu sais que tu peux être à côté de moi. Hein. Mais ça, c'est. Vous savez, l'enseignant, c'est ça, l'enseignant, très souvent, il enseigne, et il y a les autres qui suivent derrière, ils essayent de suivre, ils ne le rattrapent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de marcher avec cette personne-là. On a besoin de vivre avec lui. On a besoin de se donner à lui. Je crois que j'ai pas pris le bon numéro, là. Passer du temps, non pas à simplement vous focaliser sur le message le plus formidable que vous pouvez apporter à l'Église, mais investissez-vous dans cet homme, dans cette femme. Donnez votre vie. Vous savez, les gens aiment beaucoup qu'on les enseigne sur c'est quoi un disciple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette proposition à l'église. Merci, tu peux regagner ta place. J'étais tellement heureux que tu m'accompagnes dans cette démarche spirituelle. Merci. Continue, mon frère. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église et je leur ai dit « Qui veut recevoir un enseignement sur être un disciple ?» Tout le monde a levé la main. « Ouais, moi !» Très bien. Maintenant, qui veut être formé pour être un disciple ? Et alors là, j'ai cherché les mains, je n'ai pas trouvé. Parce que de savoir ce qu'est un disciple ne vous engage à pas grand-chose, sinon qu'à savoir ce qu'est un disciple. Par contre, si on passe du temps, des jours et des heures ensemble pour que tu sois formé à être un disciple, qui va pouvoir, au fur et à mesure, exercer son service, son appel, entrer dans sa destinée, s'engager. Et si on passe ce temps-là pour que tu sois formé, là, ça va te demander. Vous comprenez ? Savoir, pardonnez-moi, je ne suis pas contre le savoir, comprenez bien ? Je ne suis pas opposé au savoir. Mais savoir, ça coûte rien. Je sais. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'en sais assez pour savoir que je ne sais rien. C'est Fénelon qui disait ça. C'est déjà un grand savoir que de savoir qu'on ne sait rien. Il y a, vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Chesterton ? Ça vous dit quelque chose, Chesterton ? Non ? Bon, me regarde pas comme ça. Non, mais c'est dramatique, d'avoir, mais d'avoir un regard comme ça, c'est dramatique. Et ta femme, elle s'est habituée à. Oh. C'est décourageant. Non, Chesterton disait, quand on sait faire une chose, on la fait, quand on ne sait pas, on l'enseigne. Wow. Chesterton, pour savoir, c'était un chrétien, un des plus grands romanciers anglais, et qui a donc, dit cette phrase, pour moi, elle est au top. Quand on sait faire une chose, on la fait, quand on ne sait pas la faire, quand on... Hein, on l'enseigne. Pardonnez-moi, mais je trouve que très souvent, on enseigne des choses qu'on ne fait pas. Et comme j'ai dit que j'étais soumis à Saint-Nosek, il est 11 heures, nous faisons une pause.